explique peindre la Voie lactée avec Anselm Kiefer et Jean-Paul Marcheschi. L'année dernière, je sortais de la galerie Vidal-Saint-Phalle où étaient exposées des peintures de feu de Jean-Paul Marcheschi lorsque celui-ci me proposa généreusement d'aller voir, à quelques pas de là, Galerie Lambert et Galerie Tadeusz Ropak, quelques-unes des œuvres qu'Anselm Kiefer avait créées en hommage et en écho à la poésie de Paul Celan. Je l'avoue, je ne connaissais pas Kiefer, et ce fut le choc. Je me suis exclamé, ça continue, avec soulagement, avec gratitude, avec enthousiasme. La preuve était faite que la longue, l'immémoriale étude de la pensée avec la main ne s'était pas arrêtée, que les artistes n'étaient pas voués au ressassement autoréférentiel, à la redondance d'une critique sociale elle-même prévisible et monotone, que la différence de l'art et du non-art ne relevait pas de la convention, c'est-à-dire de l'arbitraire, et que l'on pouvait faire droit dans les œuvres au désastre du XXe siècle sans pour autant sacrifier la beauté. Quelque temps plus tard, le Grand Palais présentait, sous le titre Sternenfall, chute d'étoiles, des tableaux, des sculptures, des installations d'Anselm Kiefer. Et au même moment, dans le cadre du grand projet artistique du métro de Toulouse, on pouvait découvrir la Voie lactée à la station Carme, donc la Voie lactée de Jean-Paul Marcheschi, immense vitrail rétro-illuminé de 6000 feuillets photogrammes de format identique, recouvert de cire incandescente et passé à la flamme. Entre cette rencontre du ciel dans les entrailles de la terre et l'art de Kiefer, que le peintre lui-même définit comme une tentative de recréation, la reconstruction d'un endroit où on se sentirait bien dans l'univers, exactement comme dans le ciel, les regards cherchent la grande ours ou la vierge pour se réconforter. Donc, entre ces deux œuvres, il me semblait percevoir une affinité. J'ai invité ces deux artistes de la nuit, de la terre et du firmament pour en apprendre un peu plus sur ce que peut signifier maintenant, dans un monde saturé d'images, la poursuite de la grande aventure picturale. Et ma première interrogation portera sur le format. Vous avez choisi l'un et l'autre, l'immensité, la démesure. Pourquoi, Anselm Kiefer?
Alors, il faut dire que pour un artiste, la démesure, dans tous les sens du mot, est nécessaire. Alors, l'artiste ne reste jamais dans les conventions, il ne reste jamais dans le format, il démesure toujours. Alors, mais si vous parlez du format, comment dit-on, matériel, alors là, il n'y a pas de plus grand ou plus petit. Il y a le monumental. Et le monumental, vous pouvez exprimer aussi dans un petit tableau de 150 sur 150, comme de Kooning a fait avec ses tableaux Havanang Paintings. Alors, je vais toujours demander sur mon format, mais le format, ça dépend du tempérament. Mmh. Mais la démesure, ce que vous avez éprouvé dans mes tableaux, ça, c'est une condition sine qua non.
Oui, mais chez vous, comment dire, à la différence peut-être d'autres artistes, la démesure s'exprime aussi par le format. C'est-à-dire, on était au Grand Palais, on avait un saisissement. C'est-à-dire, on se disait, ces œuvres ne pouvaient être exposées que là, sous cette immense voûte. On allait même se demander si ça n'était pas trop petit pour ce que vous vouliez faire. Donc, il y a malgré tout, chez vous, un lien.
Oui,
mais explicite, ostensible, oui, entre le désir de démesure vous relie aux autres, oui, artistes, et le grand format qui rompt avec un certain nombre d'habitudes.
Oui, mais vous avez raison, je me sens toujours trop petit.
Voilà.
Je me sens toujours trop petit envers l'univers quand je vois le firmament. Alors, quand je vois le Grand Palais, je ne me sens pas trop petit. Ça, c'est une mesure normal, architectural réussi, je dirais. Mais en face de l'université, du cosmos, je me sens très très petit. Alors vous avez raison que dans le Grand Palais, on pourrait se sentir...
C'est pour ça d'ailleurs que votre atelier est lui-même, dit-on, de dimension gigantesque. C'est pas seulement un atelier, c'est presque...
Non, c'est un lieu de fabrication, je dirais.
Un lieu de fabrication
c'est
à Barjac.
Une usine.
Oui. Une usine, voilà. Oui, c'est, oui. Vous travaillez artisanalement, en quelque sorte, dans une véritable usine.
Oui, je suis encore un des rares artistes qui travaille moi-même.
Bon. Alors, même question, Jean-Paul Marcheschi, à propos de cette œuvre immense. Vous m'avez dit d'ailleurs qu'elle serait digne de cette gloire inférieure que constituerait le livre des records, puisqu'elle fait, je crois, 500 mètres carrés, la Voie lactée à Toulouse.
Oui, 35 mètres de hauteur par 12 mètres 50 de large, d'un seul tenant. En effet, il pourrait y avoir quelque chose d'assez incroyable, mais vrai, puisque je n'ai évidemment pas un atelier qui permet de voir une telle surface. J'ai pas une surface, une hauteur d'atelier qui ferait 35 mètres de hauteur. Je ne sais même pas si c'est concevable. Donc oui, c'est le registre inférieur de la gloire que celui de l'incroyable, mais vrai, du format. Je me distinguerai légèrement de ce que vient de dire Kiefer au sujet du format. Je crois qu'il y a loin des formats, par exemple, de Paul Klee, qui peignait, comme vous savez, sur un coin de cuisine. Qui
avait un tiroir.
Exactement.
Il y avait tout dans un tiroir dans la cuisine.
Sur un tiroir de cuisine.
Une vraie situation suisse.
Voilà. Et bien entendu, l'infini, l'illimité, la démesure, dans un sens métaphorique, peut survenir partout. Je ne sais pas, par exemple, si on songe à la vue de Tolède du Gréco, qui est un format relativement petit, il y a là une espèce de démesure extraordinaire, enfin une sorte de violence inouïe, c'est le tableau même de la démesure. Je crois que, quand même, le format, c'est quelque chose qui engage le sens. Ça n'est pas tout à fait arbitraire, c'est pas... Le fait du choix du format a une signification d'ailleurs très, très importante et continue dans l'histoire de l'art. Mmh. Par exemple, Monet. Ouais. Vous savez comme moi que Monet a été très attentif. Donc non seulement il a décidé de développer dans un lieu clos, je pense au Nymphéa de l'Orangerie, dont il a donc contrôlé la lumière, contrôlé l'accrochage. Mmh. Donc, ce n'était pas des décisions tout à fait arbitraires, hein, il a décidé. Oui. Donc, il y a dans
il
le...
Il a décidé quoi?
Il a décidé donc d'envelopper, c'est des formats pas très hauts, mais très larges, n'est-ce pas? Et qui enveloppent, donc il y a quatre immenses tableaux des Nymphéas, et qui enveloppent le regard, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, il a créé la cite pour ces tableaux, qui est nécessaire, ce qui est mon truc, de créer une cite pour un tableau, pour une sculpture, ne pas la laisser au hasard.
On a l'impression d'ailleurs que le Grand Palais est un site fait pour vos tableaux, non, pour cette exposition monumentale. C'est comme si le site avait été créé pour Monumenta.
Oui, mais si on parle, Jean-Paul, si on parle du format, vous connaissez Manzoni.
Certes.
Oui, qu'est-ce qu'il a fait?
Lequel? Piero Manzoni.
Oui, l'italien.
Bien sûr.
Il a fait un dessin qui est indéfini. Hein. Il a fait rouler un pneu de voiture sur une bande de papier infini. Alors ça, c'est la démesure.
C'est la
vraie démesure.
La vraie démesure.
Oui, bien sûr.
Jean-Paul Marcheschi.
Oui, cette œuvre de Manzoni est une œuvre conceptuelle, d'ailleurs. Et ce rouleau, comme vous savez, est enfermé, n'est-ce pas? Il est scellé, il n'est pas vu.
Oui.
Je ne crois pas du tout que vous situez de ce côté-là. Quand on vous découvre une de vos expositions...
Mais c'est une bonne idée, non?
Je ne suis pas du tout fanatique des œuvres de la bonne idée.
Ah non.
Moi, non.
Ah non, non, j'aime ça. J'aime Manzoni, c'est fantastique.
Manzoni, j'ai beaucoup d'estime pour
vous connaissez la merde à l'artiste.
Certes,
hein,
bien
c'est
sûr.
Fantastique.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors,
j'aime mieux les achromes, les monochromes, les choses de Manzoni. Je ne sais pas. Mais alors, pourquoi pas, Manzoni?
Le lien pour vous, par exemple, Jean-Paul Marcheschi, La Voie lactée, d'autres œuvres aussi, quel lien faites-vous entre le sens et le format? Pourquoi avez-vous besoin de déployer vos œuvres de cette manière-là?
Dans le cas de La Voie lactée, c'est donc une contrainte imposée
oui.
De l'extérieur. C'est la station Carme.
Voilà, la station Carme, ça s'est passé de cette façon-là. J'ai rencontré les architectes, on m'a proposé. J'ai d'abord vu des plans, puisque la station n'existait pas. Et donc, les architectes, à Nuit de Verre, de Toulouse, m'ont offert une verrière. Donc, cette verrière, 500 mètres carrés.
Et ça, c'est une bonne idée de mettre la Voie lactée enfermée dans le métro. Hein.
Oui, dans les profondeurs de la Terre, dans les profondeurs plutoniennes.
Les gens, ils aiment enfermer les choses, non? Pour se sentir sécurisé, hein, ils l'enferment.
Oui, et là, justement, c'était Marcheski. Peut-être pour désenfermer le visiteur. C'est-à-dire qu'on s'attend à entrer dans la Terre. Il y a toujours un malaise à entrer dans le métro. Oui. Et donc, ce paradoxe m'a plu. C'était donc introduire le ciel là où on s'y attend le moins, c'est-à-dire au cœur même de la Terre.
Justement, le ciel, ça a à voir sans doute avec le format, ou en tout cas avec la démesure. Le ciel, la nuit, voilà aussi deux thèmes, si je puis dire, qui vous unissent. Vous dites, je suis toujours trop petit pour le firmament, et je crois que vous citez à quelques reprises cette phrase de Kant absolument extraordinaire, où il dit que deux choses lui paraissent dignes d'admiration, la loi morale au-dedans de moi et le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Alors, un mot sur la loi morale, je trouve même cette expression tout à fait extraordinaire, et elle doit nous induire à réfléchir un peu avant de tracer une opposition binaire entre le monde de l'hétéronomie des anciens et le monde de l'autonomie que Kant aurait pu contribuer à créer. Autonomos, l'homme produit son propre nomos, le nomos ne lui vient plus de l'extérieur, de la religion. S'il admire la loi morale, ce n'est pas parce qu'il l'a créée, c'est parce qu'il l'a trouvée.
Oui.
Ça, donc il l'a trouvée comme une forme d'hétéronomie, en lui. Mais alors, vous, c'est évidemment le deuxième aspect de la phrase qui vous intéresse. Pourquoi, en quelque sorte, cette passion commune pour la Voie lactée, pour l'immensité du ciel nocturne?
Quant à Kant, je crois qu'il a découvert la loi morale, et il croit qu'il l'a découvert. Il a cru que ça existe. Moi, je ne crois pas que ça existe. En face de cet univers qui fait peur, qui fait le désespoir, il a créé cette philosophie bien fondée. Et c'est, tout ça, c'est une illusion pour moi.
Mmh. Mais alors justement, vous dites d'autres, je l'ai cité tout à l'heure, qu'il y a un désir de recréation, de reconstruction, et on n'a pas l'impression que vous voyez le cosmos à la manière de Pascal comme un silence des espaces infinis et qui serait à cet égard effrayant.
Non, le problème, c'est pour moi,
oui,
que
pour vous,
le cosmos effrayant, c'est en moi aussi.
Ah oui.
Alors l'immensité grand et l'immensité petit. Alors en moi, si je descends en moi, j'ai le même espace que le firmament. Ça, c'est le truc, c'est la chose qui est la plus effrayante, je trouve.
Mais et quand vous montrez le firmament, est-ce que c'est pour susciter l'effroi ou pour susciter un autre sentiment que celui-là? Un sublime qui ne serait pas nécessairement effrayant.
Alors, je ne veux pas susciter un certain sentiment. Je représente ce que je pense, ce que je sens et ce que je veux,
oui,
dans les trois.
Oui.
Et les autres, les spectateurs, ils créent leurs sentiments, ils créent leur tableau.
Et vous, la Voie lactée, Jean-Paul Marcheski, à quoi correspond justement cette passion chez vous du ciel nocturne?
Oui, là je rejoindrai entièrement Kiefer, en effet. C'est absolument pas une représentation objective de la Voie lactée. Je n'ai pas représenté la Voie lactée telle que la nuit nous la révèle. C'est aussi quelque chose qui est qui a à voir, avec une sensation très subjective, très très personnelle, qui est liée à ma propre mémoire. Dans cette image, il se glisse toutes sortes de souvenirs anciens, qui me sent personnels, qui peut-être d'ailleurs sont bien au-delà de moi. Je crois que s'inscrit dans notre mémoire quelque chose qui vient de nous, mais aussi qui vient de plus loin que nous. Je pense aussi, là je rejoignais tout à fait Kiefer, concernant la Voie lactée, il y a cette idée aussi qui réhabilitera d'ailleurs le détail, c'est-à-dire au fond le petit format, hein, tout l'univers dans un atome. Mm-hmm. Donc une goutte de la Voie lactée contient, c'est-à-dire chez moi, vous avez annoncé un nombre effarant de feuillets, certes, mais chacun des feuillets peut être détaché et contient la totalité de la Voie lactée.
Oui, alors il y a dans le, dans le DNS, non, vous dites ADN, non ?
ADN. Oui, ADN.
Dans le ADN, oui. On a l'intelligence de l'univers. Hein?
Absolument.
Alors, dans chaque de nos cellules, il y a cet ADN, mm-hmm. et cet ADN, elle survit. Mm-hmm. Alors, nous, pendant 7 ans, nous sommes tout à fait renouvelés. Hein? Toutes les cellules se sont reconstituées, mais l'ADN reste. Mm-hmm. Alors, où elle est maintenant ? Et où est l'esprit ? Où l'esprit vient dans le corps, dans la matière. Alors, ce sont on n'a pas encore résolu ce problème. Mmh.
Mais alors, je reviens une seconde à Kant. Je trouve très révélateur que vous disiez que cette idée de trouver la loi morale en soi est illusoire. On y trouve peut-être le chaos. Et là,
Je crois que toute la philosophie de Kant est fondée sur le désespoir.
Oui, mais il y a aussi le désespoir qui est le nôtre à l'issue d'un siècle effroyable, où, comme l'a dit Hannah Arendt d'ailleurs, on n'obéissait plus tellement au « tu ne tueras point », le commandement « tu tueras » avait pu s'instaurer, non pas évidemment avec l'absolutisme du « tu ne tueras point », mais « tu tueras ce qu'on te désigne ». Et vous êtes un peintre désastre, mais vous êtes aussi, ce n'est pas un jeu de mots, j'espère du moins, un peintre du désastre. Il y a une peinture du désastre, comme Blanchot a pu parler d'une écriture du désastre. Et j'ai vu, je me suis rattrapé, si vous voulez, quand je me suis rendu compte l'année dernière que je découvrais Anselm Kiefer. J'étais pas très content de moi. Donc, je n'ai pas vu, j'ai vu les trois œuvres, les deux sculptures et la peinture que vous exposez au Louvre. Je me suis plongé aussi dans un certain nombre de livres qui vous sont consacrés, où l'on voit des reproductions, mais assez bien faites, de vos œuvres. Et j'ai été frappé par une ressemblance absolument extraordinaire entre un tableau Chemin de fer.
Eisensteig.
Oui, c'est-à-dire on voit un paysage quasi plat, désert, la couleur est ocre, jaune, grise, avec une voie ferrée qui va vers l'horizon, et ce type de paysage est très présent chez vous, pas tout à fait monochrome, mais dans une gamme de couleurs assez étroite. Et puis, j'ai lu Porteur de mémoire du père, Patrick Desbois. Ce prêtre va depuis quelques années en Ukraine pour enquêter sur ce qu'on appelle maintenant la Shoah par balle, c'est-à-dire la manière dont, en Ukraine, avec des collaborateurs et aussi des réquisitionnés ukrainiens, on tuait les Juifs, non pas industriellement, mais par balle, non pas dans les forêts, mais au cœur des villages, parce que les forêts étaient infestées de partisans, et c'est un livre inouï, pour la qualité, la violence des témoignages. On pense aussi à cette phrase de Blanchot, le vœu de tous là-bas, rappelez-vous, n'oubliez pas, essayez de savoir, mais en même temps, jamais vous ne saurez. On ne sait jamais assez. Mais surtout, j'en parle parce que j'ai sous les yeux une photo intitulée « Sur les traces de la Shoah barbale », je vais vous la montrer. Paysage plat, entre un peu encore enneigé, champ couleur ocre, et au centre, une route, mais une route avec deux rails tracés par les voitures plutôt que par le chemin de fer, mais c'est à peu près le même paysage que celui que vous avez peint. Malheureusement, je ne peux pas le montrer aux téléspectateurs, mais je vous le montre, et j'ai été extrêmement frappé.
C'est en Ukraine ?
Ça, c'est en Ukraine,
ah, oui.
Et c'est donc une route qui est montrée par le père Desbois dans son livre, sur les traces de la Shoah par balle. Et Ça fait nécessairement penser à un de vos tableaux, parce que vos tableaux pensent le désastre.
Non, ce tableau, c'est une photo, mais ça aurait pu peindre
vous
par
auriez,
moi.
C'est vous clair. Auriez pu, voilà.
Oui,
on se dit, c'est du kiff.
Mais vous savez, alors, il y a des tableaux au monde qui sont créés en ce moment à des endroits différents du monde. Parce qu'il y a toujours... Mais c'est la même chose avec les inventions. Parfois, on a fait des inventions à des endroits opposé du monde par d'autres inventeurs qui ne connaissaient pas. Parce qu'il y a une intelligence dans le monde qui baille partout. Mmh. Et
Mais c'est pas n'importe quelle intelligence, vous. C'est-à-dire, c'est un rapport à ce qui s'est passé, oui, à cette rupture dans l'histoire allemande, qui justement vous empêche de prendre Kant au pied de la lettre.
Et
alors, qu'est-ce que tout ça veut dire?
Ce que vous avez dit, on ne sait jamais assez.
Oui.
Et ça, je dois dire oui, parce que il y a, je sais pas, 5 années en Allemagne, une discussion si c'est maintenant assez. Avec la télévision, avec sur ce qui est passé dans le nazi.
C'était avec Martin Walser, notamment.
Oui, c'était ça. Et moi, je peux dire, on ne sait jamais assez. C'est absolument vrai. Et moi, je ne le stoppais pas.
Parce vous n'arrêtez pas.
C'est tellement immense qu'on ne peut jamais assez voir. Parce que c'est comme avec le firmament. Il y a un sort de Jacques, homme ou femme, tué. Et si on multiplie ça, c'est jamais assez.
Oui, mais donc ce n'est jamais assez, ça restera une obsession de votre travail. D'un autre côté, je le disais au début, vous ne sacrifiez pas la beauté. Or, il y a tout un pathos autour d'Auschwitz qui consiste à dire l'art n'est plus possible, l'art ne peut se vouer qu'à sa propre déconstruction, oui. Et vous non. C'est-à-dire que perpétuez l'histoire de l'art tout en prenant en acte dans votre art du désastre de l'histoire.
Ce que Adorno a dit, l'art n'est plus, on peut plus faire un poème après Auschwitz, c'est vrai, mais c'est vrai encore dans un sens plus profond, parce que moi je crois on peut pas faire des tableaux. Alors, et ça c'est pour moi le défi de le faire. Alors pour moi la mythologie juive, c'était toujours pour moi un défi de faire des tableaux, parce que on ne peut pas faire des tableaux de Dieu, c'est interdit. Mm-hmm. Et cette interdiction m'a toujours poussé d'une manière paradoxale vers un tableau. Mm-hmm. Et donc, quelque chose sur le désastre. Alors, le désastre, pour moi, les désastres, ils ne sont pas seulement des désastres, ils sont aussi inclus dans un métabolisme. Parce que après la guerre, moi j'ai joué dans les ruines. J'ai construit des maisons avec les briques qui étaient partout et j'ai construit des choses. Alors pour moi, les ruines sont toujours le point de commencement pour quelque chose.
Ah d'accord. Alors bon, et Jean-Paul Marqueschi, vous n'avez pas la même histoire. Il n'y a pas la situation qui est la vôtre, n'est pas la même, et on a le sentiment justement que vous n'avez pas besoin de faire aussi directement entrer l'histoire dans votre œuvre. Et dans le livre du sommeil, un livre que vous avez écrit, j'ai lu cette citation de Bachelard, absolument extraordinaire, « Devant la flamme, le rêveur vit dans un passé qui n'est plus le sien, dans le passé des premiers feux du monde. » Vous peignez avec la flamme, vous nous expliquez exactement ce que c'est, et on a le sentiment que vous, par-delà l'histoire, vous revenez toujours au premier feu du monde. D'ailleurs, il y a un ensemble qui s'appelle Uranos, qui est très important dans votre œuvre. Donc, voilà comment je vois les choses. Jean-Paul Marqueschi.
Oui, c'est peut-être le propre de la flamme, d'abord de changer bizarrement le... Il y a une phrase de Nietzsche, d'ailleurs, très étrange et amusante, où on ne sait pas trop d'ailleurs de qui il parle. C'est une note où il dit « Mais quel est ce fou qui brûle ses chandelles en plein midi ?» J'ai l'impression qu'il décrit tout à fait ma vie quotidienne, puisque j'utilise le flambeau en tant que pinceau. Non, j'extrais tous les thèmes, les figures, les matières, les non-figures...
Alors, c'est un pinceau, et en même temps, il y a la cire qui tombe, qui elle-même entre dans l'œuvre.
Oui, la cire entre dans l'œuvre, la suie, donc qui vient, qui est du carbone pur, qui permet d'extraire une énorme variété de grès, nuances de noir. La cire permet non seulement de fabriquer de la sculpture, ce qui a fini par arriver.
Oui.
Donc, quelque chose qui est venu, c'est une espèce de peinture en relief, qui est née de façon tout à fait imprévue. J'ai d'abord peint, mais je n'avais jamais sculpté, donc c'est devenu une espèce de peintre ou de sculpture, de peinture sculptée ou de sculpture peinte. Mmh. Mais je voulais dire simplement deux choses concernant, d'abord, ma découverte de l'œuvre de Kiefer. J'en avais eu des échos dans des revues, c'était autour des années 80, et j'avais vu Donc, je crois, le grand choc, c'était l'exposition, je crois, à l'Arc, en 1984, où d'un seul coup, ça faisait un drôle d'effet. Enfin, donc, quand vous le... On se situait du... Il y a un discours très insistant autour de Kiefer, du côté ce qu'on pourrait appeler une sorte d'expiation historique, de responsabilité historique, de dimension, donc du désastre historique. Ce qui m'a frappé, sans vouloir évidemment réduire l'importance, évidemment je n'ai jamais peint de chemin de fer, mon histoire, je n'ai à me désendetter de rien. Bon, on pourrait revenir à ma propre histoire, ma propre biographie. Bon, ma mère est italienne, mes grands-parents ont fui le fascisme. Donc, en fait, je suis né de ce drame à l'envers. C'est-à-dire, mon grand-père a été purgé avec ma grand-mère comme le faisaient les fascistes, en place publique. Il y a eu donc une expérience de l'humiliation dont je me suis toujours souvenu. Bien entendu.
Mais alors, quand vous dites vous-même, vous avez vu dans l'œuvre de Kiefer autre chose que la peinture du désastre, ou de la culpabilité, ou de l'expiation. Et vous y avez vu quoi, alors?
Bien entendu, je ne vais pas effacer cela. Ce serait peut-être tout à fait terrible. Mais je l'ai reçu vraiment comme une renaissance, cette œuvre. Il faut imaginer ce qui se produisait à cette époque. On était dans une situation... Donc, quand vous parlez, il n'y a pas d'innocence du format, de même, il n'y a pas d'innocence, je crois, de la technique. Ce qui est, je crois, le plus politique et le plus moral dans une œuvre peinte, c'est d'abord le format, la matière, la façon dont le peintre va se débrouiller. Mmh. Donc, c'était extraordinaire, ce retour inespéré de non seulement du tableau dans lequel on avait... Moi, j'y voyais une poursuite de ce qui semblait avoir été interrompu par le minimalisme, par Judd. J'ai vu vos œuvres polémiques, amusantes d'ailleurs, au sujet de Judd, hein, Cachambre, une île, etc. Mais donc, cette façon polémique, et vous avez, à mon avis, réagi beaucoup mieux que de simplement être polémique. C'est-à-dire que vous avez fait l'œuvre même. Ça me semble beaucoup plus polémique de faire une œuvre que d'en s'en tenir au langage polémique, ironique.
Oui, quand vous parlez de Judd, alors il faut dire, dans le minimalisme, il y a des différents niveaux. Alors, je dirais, dans le Judd, c'est plutôt le design. Pendant que Walter de Maria, c'est la philosophie. C'est la philosophie des astres.
Certes.
Alors il faut distinguer ça.
Bien sûr.
Et le minimalisme, c'était nécessaire. C'était
absolument
nécessaire.
Comme... Pourquoi?
Oui, parce qu'il y avait l'école de Paris, tout le monde peignait, tout le monde marchait dans la couleur. Et il fallait cette purgatoire, on dit purgation, pour arriver. Et aussi, c'est intéressant, le minimalisme, ce n'est pas inventé par les Américains. Ça vient du japonais. Ça vient de l'autre côté du monde. Alors c'est venu par le Pacifique et c'est arrivé au ouest de l'Amérique et là ça a pris pied. C'est intéressant normalement on prend l'avion et on va dans l'autre direction.
Mais alors tout de même, Jean-Paul Marscassi parle de Renaissance lors d'une précédente émission que j'avais consacrée à l'art pictural d'aujourd'hui, où j'avais invité deux peintres, Charles Maton et Ernest Pignon-Ernest. J'avais cité ces deux vers d'Aragon, et que cela soit Chardin, Braque ou Vermeer que vous les nommiez, il en revient toujours poursuivre la même longue étude. Il me semble que tous deux, vous poursuivez la même longue étude, donc vous inscrivez dans une tradition très longue, et en même temps, cette tradition, vous ne la répétez pas. Alors, je dirais, vous inscrivez dans une tradition qui est celle de la culture tout entière. La littérature est omniprésente, pas de la même façon, chez l'un et chez l'autre. Marceschi, il y a le rapport constant à Dante. Vous avez des auteurs qui vous inspirent, qui vous inspirent des titres, qui vous inspirent des œuvres. On pense à Ingeborg Bachmann et ce titre extraordinaire, Mon âge, ton âge et l'âge du monde. On pense à Céline. On pense, bien sûr, à Céline. Et puis aussi, vous poursuivez la même longue étude, c'est-à-dire que vous ne la répétez pas à travers la technique. Si la morale, c'est la technique, vous
faites des tableaux, ils sont immenses, mais aussi une autre modification par rapport à la tradition, une modification qui n'est pas une table rase, qui est une continuation, c'est-à-dire il y a un épaississement du trait chez l'un et chez l'autre, c'est-à-dire il y a du matériau chez vous, il y a du sable, il y a des fagots, des pailles, etc., etc.
Je ne dirais pas continuation. Alors, comme Jean-Paul l'a dit déjà tout à l'heure, il se souvient des choses plus anciennes que lui-même. Hein. Vous avez dit ça, non ?
Oui, bien sûr.
Alors, ça, c'est ma continuation. Ma continuation est la continuation depuis les dinosaures, ou même encore plus loin, mm-hmm. depuis la mer, où tout est né, dans la mer. Nous venons de la mer. En Corse, on sait ça.
Mais comment vous est venue l'idée de ne pas peindre simplement avec les couleurs de la palette, et pourquoi ces éléments végétaux, ces broussailles, pourquoi aussi l'intégration quelquefois de certains éléments sculptés sur le tableau.
Oui, alors pour moi, la peinture, c'est pas l'illusion. Je veux pas donner une illusion. Je veux laisser parler les substances, comme une chimie, un chimique, un homme de la chimie.
Oui.
Chimicien, on dit.
Oui.
Je travaille sur les substances, et les substances interactent, interfèrent. Mmh. Et les substances, ils ont en même la matière, le plan, la paille, tout ça, a quelque chose d'esprit. Dans la matière. Alors si on extracte ça, comme les gnostiques, on extractait les étincelles de la lumière de la terre. Si on extracte ça, ça devient un tableau organique.
Mm-hmm. Oui. Et en même temps, peut-être que c'est une manière de préserver l'aura. Il vous arrive aussi de vous référer à Benjamin, qui dit qu'est-ce en somme que l'aura, une singulière trame de temps et d'espace. Apparition unique d'un lointain, si proche soit-il, ce tableau, il y a de la représentation, mais il y a aussi de la présence, et une présence matérielle qu'aucune image ne peut reproduire. Donc c'est comme s'il y avait aussi une manière, dans cette civilisation saturée du mal, de préserver l'irréductibilité, et donc ce que Benjamin appelle l'aura de l'aura.
L'aura, c'est très important. Pour cette raison, je donne à mes tableaux, et j'aimerais donner à l'autre, les tableaux des autres aussi, une cite spéciale pour que l'aura peut resplendir.
Peut resplendir, absolument.
Pour resplendir.
Alors, chez vous, Marqueschi, à quoi correspond cet épaississement du trait qui apporte nécessairement le feu, puisque peindre avec le feu, c'est peindre aussi des concrétions. Comment cela vous est-il venu? Quelle signification accordez-vous à cette...
Oui, enfin, les œuvres que j'aime, justement, finalement, ne se tiennent pas du côté de l'idée. Il y a quelque chose de malin chez les artistes de la petite idée, quelque chose de rusé, et ça n'est vraiment pas ma tasse de thé. En revanche, je suis très sensible aux artistes de ce que j'ai appelé, pendant mal an et faute de mieux, la fusis. Mieux que d'ailleurs la physis grecque. On entend d'ailleurs la nature dans le sens plus fort, dans le sens de catastrophique d'ailleurs, ce qu'il peut y avoir d'intempestif, d'inquantifiable, d'immesurable, de menaçant et aussi de réconfortant. C'est-à-dire, j'aime les œuvres incarnées. C'est pour ça que j'ai une grande estime pour Monsieur Manzoni, bien entendu. J'ai fait ma maîtrise de très jeune garçon. Je faisais une maîtrise sur Manzoni. Donc je me suis vraiment penché avec. Et j'ai une grande estime pour l'œuvre de Manzoni. Je suis beaucoup moins enthousiaste pour sa descendance, qui est aujourd'hui tout de même écrasante.
C'est l'art conceptuel.
Toute œuvre au fond fondée un peu trop. Qui serait une sorte d'illustration de l'idée, est devenue une espèce de doxa écrasante, et surtout extrêmement ennuyeuse et banale, finalement. Elle manque de corps. C'est ce que dit Barthes, d'ailleurs, quand il dit « qu'est-ce que c'est le banal ?» Aujourd'hui, on a par exemple, des théoriciens de l'art qui vous font l'éloge du relationnel, du banal, vraiment. Eh bien, Barthes dit que le banal est très embêtant. Enfin, c'est ce qui manque le moins au monde. Et il dit « le banal, c'est ce qui manque de corps ». Or, ce que j'ai aimé chez Kiefer, et ce que je tente donc de faire depuis le début, c'est au contraire déchaîner le corps. Et en effet, il n'y a pas d'image chez moi comme chez vous. Ça n'est pas l'image de la nuit, c'est la nuit elle-même. Le feu n'est pas une métaphore, c'est le ciel avec ses gradations, avec ses nuances, etc. C'est le ciel même. Donc,
vous avez absolument raison. Il faut aussi la physique, mais il faut aussi l'idée. Il faut tous les trois choses. Il faut l'intellect, il faut les émotions, il faut la volonté.
Bien sûr.
Alors, si c'est si on a tous les trois, c'est bien. Et ce que j'aime, Roland Barthes, pour moi, c'est le plus grand écrivain, c'est qu'il y a l'idée et il y a le corps. Il y a la chair. Et je suis heureux que...
Oui, alors, vous êtes l'un et l'autre, pourrait-on dire, justement, des grands peintres charnels, et pas seulement peintres, sculpteurs, mais... Et il y a aussi une présence quasi charnelle, si je puis dire, du livre. Mais charnelle et spirituelle, en même temps incarnée. Le livre, d'abord, vous le sculptez dans des bibliothèques, c'est des livres en plomb. Le plomb est une matière à laquelle vous êtes très attaché. Vous faites aussi des livres en un seul exemplaire. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes constamment inspiré par la littérature. Alors, c'est de cela que je voudrais dire quelques mots. La fusil, c'est présente, mais ce n'est pas la pure sauvagerie. La culture est là aussi. Quel rôle joue dans votre œuvre le livre, à tous les sens que ce mot prend?
Oui, alors, pour travailler, c'est pas assez pour moi de faire l'art pour l'art. Je ne peux pas faire l'art pour l'art. J'ai besoin d'un choc, j'ai besoin d'un événement qui me fait travailler. Alors, ça peut être un choc dans la vie, ça peut être un landscape.
Un paysage.
Mais surtout, ce sont les œuvres des poètes qui me... Je ne peux pas dire inspiré parce que c'est trop faible, qui me frappent. Mm-hmm. Et ça me fait travailler.
Mais en même temps, on est quelquefois un peu désorienté par la diversité de vos références. Je vous ai découvert dans les œuvres que vous écriviez, que vous peigniez et que vous sculptiez en rapport avec Celan. Vous dites comment en allemand? Celan. Et puis, il y a, dans l'exposition Monumenta, il y avait toute une série autour de Céline, et le voyage au bout de la nuit. Quelle est la cohérence, quel est le sens de ces... Parce que ces deux références, je ne dirais pas qu'elles choquent, elles surprennent en tout cas. Se fait chez vous, justement, comment se constitue la bibliothèque?
Oui, alors quand j'ai lu Au voyage au bout de la nuit, c'était un choc pour moi, c'était une langage nouvelle pour moi, et surtout que tout devient pire. À travers le livre, ça devient toujours pire. Et on croit, mais non, on est au fond du monde, et on descend encore dans le métro. Oui. On descend encore.
Plus bas,
et ça, cet mouvement en bas, qui est pour moi, dans la littérature, c'est un mouvement en haut, parce qu'il crée une langue. Alors ce sont les deux mouvements, le mouvement dans la merde et le mouvement dans les astres. Ça m'a beaucoup fasciné, et pour cette raison, j'ai dédié ça.
Alors c'était quoi ça? Est-ce que vous pouvez le décrire, le ça que vous avez dédié à Céline? On voit une série d'œuvres avec des bateaux.
C'est un mur d'œuvres, ce sont 30 ou 40, je ne sais plus, tableaux, qui sont des pièces de mer, comment dit-on?
De la mer. Oui, c'est la mer.
Et là, il y a des bateaux, par exemple, qui sont complètement en bras, qui sont en plan. Parce que c'est le paradoxe, il n'y a pas un bateau qui flotte, qui est fait de plan. Et ça, c'est un voyage qui ne prend jamais vers les astres. Mais dans le langage de Céline, ça va vers les astres.
Ah d'accord. Mais en même temps, le bateau, lui, il semble aller plutôt vers le fond.
Il s'enfonce dans la boue, il devient même parfois la boue. Mm-hmm. Et c'est une image sans issue.
Une image sans issue. Alors, oui, Marc Esqui, chez vous, la présence de la littérature, vous avez beaucoup d'amis écrivains, Dante est votre référence absolue, et puis il y a aussi, par-delà la littérature, comme chez Kiefer, une présence de l'écrit dans l'œuvre. Il y a, on voit de l'écriture dans l'œuvre même. Alors, quel sens donner à tout cela?
Alors, on n'a pas tout à fait la même bibliothèque, mais si en effet, certains des poètes sont communs. Mais dans mon cas, Dante n'est pas une citation. Dante est quelque chose qui appartient... c'est quelque chose d'organique en rapport à Dante. C'est d'abord dans l'histoire du pays d'où je viens, la Corse, et la Toscane par ma mère. Donc des deux côtés, c'est le texte, en tout cas je regrette, il est probablement plus lu aujourd'hui, mais je disais, il y a une chose que je trouve très émouvante, il existe par exemple à Bastia, une société ancienne qui s'appelle la société Dante Alighieri. Il se trouve que le toscan est la langue littéralement maternelle, c'est la langue de ma mère. Chose que j'ai bien entendu approfondi, investissant des cultures, la culture italienne, faisant des études d'italien. Donc, je ne fais d'ailleurs dans ma peinture aucune citation littéraire. L'écrit, jamais le mot, aucun univers ni rien n'est cité. En revanche, l'écrit qui envahit tout chez moi et qui disparaît, on voit bien qu'il y a des rafales de mots qui hantent la Voie lactée, qui viennent ça et là, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie. Ça n'est pas du tout une citation, c'est... Je ne sais pas trop comment on peut le qualifier. Il se trouve que la journée, chez moi, depuis déjà 25 ans, s'organise toujours de la même façon. J'arrive dans ce lieu sans fenêtre où je peins, et avant que d'allumer mon flambeau et de commencer la peinture, il se produit quelque chose comme un déferlement de langage que je jette sur mes feuillets, tels qu'on les voit ici, par exemple, dans lesquels peuvent entrer des rêves, peuvent entrer des obscénités. Il y a ce que... qui relève donc toute la sexualité, il y a tout le fond verbal humain, ce qui, ça n'a rien de littéraire. Donc c'est cette espèce de part de mots qui nous envahit, qui nous accompagne, qui nous déborde. Et au fond, chez moi, le langage ou la prise d'écriture est là pour, non pas pour rappeler la poésie ou la littérature, mais au contraire pour lâcher le langage. Le langage est largué au fond de la peinture, qui vient le détruire d'une certaine façon. Et au contraire, je crois que c'est la mission même de cet étrange journal sauvage, enfin... sordide, comme dirait Quignard, c'est vraiment un sordidissime, dans lequel d'ailleurs je décide de ne rien censurer. Et ce n'est qu'après donc, que se produit la peinture, qui pour moi est l'inverse, c'est-à-dire c'est un ressaisissement du temps et de la vue.
Alors, vous avez dit qu'il y avait chez vous, avec Dante, un lien quasi organique. Vous avez parlé du Toscan, de votre mère, et cela m'invite à poser une question toute barthésienne. Barthes est un auteur que nous aimons tous les trois. Vous avez dit à quel point il vous importait Anselm Kiefer. C'est un très grand écrivain, et l'un de ses plus beaux livres est un séminaire. Son dernier séminaire au Collège de France, La préparation du roman. Et le roman qu'il rêvait d'écrire, qu'il n'a pas écrit ou qu'il a peut-être écrit, dont la préparation du roman est un fragment, comme peut-être également La Chambre claire. Mais il s'interroge sur l'œuvre qu'il voudrait faire, et il essaye d'en donner les caractéristiques. Il en donne trois, et je voudrais savoir si ces caractéristiques éveillent ou non un écho en vous, au point où vous en êtes de votre propre travail. Il dit, l'œuvre que je désire, l'œuvre que j'aimerais, l'œuvre désirée doit être simple, filiale, désirable.
Filiale, qu'est-ce que c'est filiale ?
Filiale, doit s'inscrire dans une certaine filiation, elle doit venir de quelqu'un. Une écriture, dit-il, a besoin d'une hérédité, et il cite Verdi, tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès. Il y a donc là, sinon une rupture, du moins un certain infléchissement de la théorie barthésienne. Barthes se quitte, Barthes abandonne le surmoi qu'il a lui-même constitué pour lui-même, le surmoi théorique. Donc, puisque les deux conditions de la simplicité sont la lisibilité et aussi le refus que l'œuvre soit un discours sur l'œuvre.
Donc, alors les trois sont simples, filiales, et le troisième c'est
simple, filiale et désirable. Alors, filiale, c'est-à-dire elle doit assumer une certaine filiation. Nietzsche, pas de belles choses sans lignage, et cela s'oppose là aussi à la déconstruction. la filiation contre une certaine désaffiliation philosophique qui était l'ère du temps. Barthes n'a jamais aimé la doxa, donc il a peut-être lui-même pratiqué la déconstruction contre la doxa, mais quand la déconstruction est devenue la doxa, il a découvert cette espèce de nécessité de la filiation désirable pour lui. Ça peut être, il faut qu'elle soit, que se manifeste en elle le désir de la langue française elle-même.
C'est l'amour aussi, parce qu'il a écrit un livre sur l'amour.
Exactement.
Alors,
et le plaisir.
Tel est pour moi, en quelque sorte, le profil de l'œuvre à faire. Et il dit d'ailleurs que le classique n'étant plus aujourd'hui engoncé dans le durable, peut être lui-même l'objet d'un réinvestissement du désir. Mais voilà, ces trois caractéristiques, qu'en pensez-vous, Hansen Kiefer ? Filial et désirable.
Oui, ça c'est complètement clair. Alors, ça doit être simple, il faut voir une idée. Il faut voir une idée simple, mais qui est complexe derrière. Alors, un tableau qui est bien, on voit quelque chose, on est frappé par ça, mais après, quand on réfléchit, on voit plusieurs composites de cette idée. Et filial, alors j'ai compris que ça veut dire qu'il ne doit pas être conçu pour l'éternité. Non, c'est ça, non ?
Non, ça doit être quelqu'un qui est une hérédité, qui est un passé, qui est un lignage.
C'est ce que vous êtes, d'ailleurs, continuellement. C'est-à-dire, quand vous manifestez dans cette première exposition, d'emblée, ce qui était perdu, à savoir le retour du langage, filiation du côté de Twombly, de Beuys, bon, de tout, vous réintroduisez...
L'histoire... C'est-à-dire... L'histoire...
L'histoire m'est vécue... Intimement.
Le souvenir.
Vous inscrivez dans quelque chose. La filiale s'oppose à la rupture pour la rupture, au pathos de la table rase.
On continue un chant.
Voilà.
Okay. Absolument, voilà, c'est ça.
Et désirable, c'est clair. Alors, quant à mes tableaux, ils ont une perspective qui prend les gens là-dedans. Les gens sont attirés comme par le miel. Les abeilles par le miel. Alors il faut que et ils sont aussi construits les tableaux avec l'amour. Quand je travaille, c'est toujours l'amour, c'est le désir surtout. C'est le désir qui n'est jamais saturé, on dit ça.
Saturé, oui.
Saturé, mais qui est dans le tableau.
Alors je vous pose la même question, Jean-Paul Marskeski. Ces caractéristiques, les reprendriez-vous à votre compte pour définir votre travail ou ce que doit être aujourd'hui le travail de l'art, de la peinture en particulier?
Oui, bien sûr. C'est très polémique, puisque aujourd'hui, ça l'était à l'époque. Dans le cas de mais Barthes a toujours été insaisissable. Ça évoque d'ailleurs quelque chose que Barthes propose et qui est, je crois, une figure qui traverse votre œuvre et qui traverse de très nombreuses œuvres, enfin assez rare, un peu, qui est la figure de la spirale. C'est ce que Barthes va nommer la batmologie, qui est donc une figure très libératrice, très riche, que d'ailleurs Renaud Camus va approfondir et en faire un système esthétique, philosophique, n'est-ce pas ? Et qui est une figure, au fond, de la liberté. Mais je crois que Barthes, c'est très à l'encontre du temps, insiste sur le fait, moi je n'aime pas les œuvres désoriginées. Je suis paléolithique, mais je suis pour que les œuvres s'inscrivent dans une origine. De même que je ne crois pas aux œuvres rebelles, comme ça, spontanément rebelles, non. Une œuvre est d'autant plus rebelle qu'elle sait ce contre quoi elle se fait, ou ce avec quoi elle se fait. Donc, Barthes réaffirme quelque chose qui, aujourd'hui, est totalement à contre-courant. Donc, moi, je serais absolument... Et le troisième terme, c'est le plaisir. C'est-à-dire, il faut qu'une œuvre, au fond, rien n'est plus ennuyeux que le fantasme d'éternité. Mais c'est que l'œuvre, après notre mort, puisse être encore aimée. Difficile.
Bien. Difficile d'ajouter un mot à ce que vous venez de dire. Donc, l'émission maintenant se termine. Je vous remercie beaucoup, Hansen Kiefer et Jean-Paul Marskeski. Donc, on peut voir à la Station Carme, et on pourra toujours voir à la Station Carme de Toulouse, votre Voie lactée. Quant à vous, Hansen Kiefer, l'exposition Monumenta a cessé, mais c'est au Louvre qu'on peut voir trois de vos œuvres, Athénor, je crois, c'est ça, c'est le titre.
Athénor,
une œuvre peinte ainsi que deux sculptures d'Anae Hortus Conclusus. Et je dois dire que on peut aller au Louvre, mais quand on se promène rue de l'Amiral Coligny, on voit l'œuvre qui se découpe, même la nuit, derrière l'une des plus belles fenêtres du Louvre.
Ça, c'est une drôle de chose, parce que quand j'arrivais la première fois à Paris, c'était sur un camion, et j'arrivais la minuit au Louvre. Et c'était en 63, le Louvre était encore noir. Vous savez, il s'était pas encore nettoyé, là, la ville. Et j'ai vu ces longues, longues façades du mur du Louvre, et pour moi, c'est maintenant intéressant de le voir, mes tableaux.
Et c'est très beau pour tout le monde. Donc, je voudrais citer deux livres qui vous sont consacrés, Anselm Kiefer et la poésie de Paul Celan, d'Andrea Lauterwein, aux éditions Regard, ainsi qu'aux éditions Regard, un livre qui porte, pour titre Anselm Kiefer, de Daniel Arras. Pour ce qui est de Toulouse, je voudrais citer Commande publique de Renaud Camus, aux éditions Paul, qui est une grande réflexion sur cette commande d'œuvres pour le métro de Toulouse, ainsi que Joindre et rejoindre, l'art et le métro de Toulouse, de François Barré, aux éditions Panama Musée. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Penser la guerre ». Mes invités seront René Girard et Frédéric Gros. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et Françoise Camard, à la technique Jean Frédérix. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.